Vous pouvez mentir pour dire, pour faire du bien ou pour ne pas faire de mal. On a beaucoup blâmé les jésuites, notamment dans l'Église chrétienne, d'avoir défendu cette notion des vérités simultanées. Ça me semble une évidence, et plus vite vous en serez persuadé, mieux ça vaudra pour vous. Cela dit, il y a aussi l'imposture, notamment l'imposture sociale contre laquelle j'ai combattu toute ma vie, je crois. L'imposture sociale, c'est autre chose. C'est aussi, bien sûr, le jeu de plusieurs vérités. C'est aussi dans la recherche d'une utilité. Mais c'est l'utilité de certains, de quelques-uns, des gouvernants. Quand dans le livre d'histoire russe soviétique qui paraissait en 45, 46 ou 50 encore, le maréchal Staline était à toutes les pages comme le seul vainqueur de la guerre, c'était évidemment un mensonge. Quand après le déboulonnage de Staline, on a publié des livres d'histoire où le nom de Staline n'était nulle part pendant les 50 guerres, c'était évidemment un mensonge. Et Staline était quand même pour quelque chose dans la victoire contre les Allemands. Bon, là nous avions deux mensonges énormes, flagrants, et pourtant, cela ne correspondait en rien à la réalité, bien entendu. J'ai, parmi les impostures que j'ai contribué à détruire, je pense qu'il y a la conception de l'histoire, que l'histoire nous donne de Néron. Néron, tyran romain, monstre à vide de sang qui aurait incendié Rome et qui ensuite aurait persécuté les chrétiens en les chargeant de l'incendie de Rome. Bon, je n'ai pas du tout cette conception de l'histoire, mais c'est la conception qu'on a pratiquement depuis 2000 ans. C'est une imposture de 2000 ans. La première fois qu'en 60 j'ai publié mon Saint-Néron, ça même pas fait de bruit, parce qu'on a considéré que j'étais complètement fou. 10 ans après, on a commencé à trouver ça un peu plus normal, et finalement, l'Encyclopédia Britannica m'a demandé de faire l'article sur Néron, preuve que mes théories sont de moins en moins rejetées. Je peux en considérer que Néron, non seulement n'est pas le persécuteur des chrétiens, mais que c'est un des premiers chrétiens. Il a été converti par Paul et que ce que l'Église a essayé de faire pendant les siècles qui ont suivi, c'est de cacher précisément cette conversion d'un empereur romain qui, évidemment, changerait considérablement l'histoire. Si on la reconnaissait comme telle, ça pourrait entraîner, entre autres choses, que l'un des évangiles, l'évangile de Luc, serait l'œuvre d'un écrivain Néron, Lucain. Tous les deux, c'est Lucanus, d'ailleurs, ça s'appelle Lucanus. Et puis ça entraînerait bien d'autres choses. Mais après tout, ce n'est pas absurde. Je ne suis pas sûr, bien sûr, d'avoir raison. Peut-être que je me suis laissé entraîner un peu loin par certaines lectures ou certaines découvertes, notamment de la Maison Dorée, à Rome, le palais de Néron. Mais enfin, je veux dire que la manière dont j'approche cette histoire-là n'est pas plus invraisemblable que celle qu'on... Elle est beaucoup moins invraisemblable que celle qu'on nous donne, comme certaines, étant donné que la version des faits qu'on me donne est à peu près constamment contredite. Et contredite par des choses que l'on connaît, c'est ça qui est extraordinaire. Par exemple, on nous dit que Saint Paul, a été enfermé et sans doute a été tué par Néron, massacré par Néron, puisque dans l'optique de l'histoire, Néron massacre tous les chrétiens. Or, les actes des apôtres que tout le monde connaît, qu'on lit à l'église le dimanche, les actes des apôtres se terminent par la phrase, Paul arrive à Rome, il a demandé à voir Néron, et on a accédé à sa demande, il arrive à Rome, et la conclusion très abrupte, c'est, Paul loue une petite maison près de Rome, où il vécut d'abord pendant 2 ans, et où librement, il enseignait notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, où est la persécution néronienne là-dedans? Comment peut-on concilier une phrase que tout le monde connaît, que tout le monde lit, avec la légende néronienne telle que les historiens l'entretiennent? C'est presque incompréhensible. Mais cela nous prouve aussi combien
combien la réalité est une chose insaisissable. Où est la réalité? Je ne sais pas quelles sont les périodes de l'histoire de France que vous avez particulièrement étudiées. J'espère que vous avez quand même longuement étudié la Révolution française, qui est vraiment très importante et qui est le point de départ, je dirais, de la période contemporaine, la période que nous vivons, et même, je dirais encore plus précisément, des idées et des tendances qui se refont jour actuellement après une certaine éclipse. Eh bien, si vous avez étudié un peu à fond la Révolution française, vous devez savoir qu'il y a au moins deux versions complètement différentes, pour ne pas dire opposées, de la Révolution française. Vous avez la Révolution des socialistes, des révolutionnaires eux-mêmes, et des utopistes, et des grands poètes, la plupart des grands poètes du 19e, d'ailleurs, de Michelet à Hugo, qui fait des révolutionnaires, des saints, des anges de la liberté, des anges de rédempteurs, des libérateurs du monde, ce qu'ils ont certainement été, ce qu'ils ont certainement été. Et puis vous avez les histoires qu'on dira de droite aujourd'hui, si vous voulez, de Guizot, de Thiers ou de Taine, qui nous décrivent dans les révolutionnaires des monstres, de véritables monstres assoiffés de sang et des persécuteurs abominables, des espèces de fanatiques, aussi fanatique que la pu être l'inquisition religieuse. Et c'est aussi vrai, on ne peut pas nier les centaines et les milliers de morts sous l'échafaud ou les cadavres de la Loire, etc. Bon, où est la réalité? Où est la réalité? Alors pourquoi, comment se peut-il que la réalité soit aussi difficile à cerner? Qu'est-ce que la réalité? Est-ce que, je vais un peu m'interrompre avant d'aller plus loin, est-ce que certains d'entre vous pourraient essayer de me répondre à cette question à votre tour? Qu'est-ce que la réalité pour vous, mademoiselle? Ce qui est vrai dans le monde. Mais qu'est-ce qui est vrai dans le monde? Qu'est-ce que la vérité déjà pour ce que là. Je ne vous parle pas de la vérité, hein. Faites bien attention aux mots que j'emploie, parce que ça, si on se met à parler de la vérité, alors, je vous demandais ce qui est pour vous la réalité. Bon, vous me répondez, c'est la vérité. C'est votre droit. La réalité, c'est la vérité. Bon, j'aimerais d'autres réponses différentes. Il peut y en avoir qui seraient différentes. La réalité n'est pas forcément la vérité. Oui, mais enfin, vous êtes toujours dans la vérité. Vous confondez le mythe de la vérité avec la réalité. Bon, ça d'accord, c'est votre droit.
Anne ne voulait pas dire quelque chose. Comment elle conçoit la réalité?
Ah non, je disais que la vérité, c'est pas...
Vous parlez tout... Oui.
Je parlais de la vérité avant.
Et oui.
Non, mais c'est parfaitement juste. D'ailleurs, là, évidemment, pour la plupart des gens, la vérité, c'est la réalité réciproque. Bon, j'essaie de vous montrer depuis près d'une demi-heure que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a, pas de rapport entre la vérité et la réalité. La vérité est une construction mentale, est une explication, est un système référentiel, généralement logistique, ou en tout cas efficient, qu'on essaie d'appliquer à la réalité. Mais la réalité, il faudrait d'abord savoir ce que c'est avant de lui appliquer ce voile de vérité. Non, et c'est curieux tout de même que vous ne trouviez que cela. Parce que vous avez raison, on confond vérité et réalité. Mais ce n'est pas la seule confusion. Oui. Ouais, c'est très, très important. Voilà quelque chose de tout à fait différent. Vous voyez que nous ne sommes plus dans la vérité, nous sommes dans l'observation. Nous sommes dans l'observation. Ce qu'il y a à l'origine de cette réalité, c'est l'idée que les yeux, par exemple, reflètent exactement ce qui se passe au dehors. C'est le mythe du reflet. C'est plus le mythe de la vérité. Oui ?
C'est concret, ce qu'on dit. qui nous entoure, de la nature.
Ouais. Eh bien, je dirais que c'est encore un troisième mythe. C'est ça. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est des choses en acte, dont la réalité, à ce moment-là, est acte, elle est action. Elle est, et ça, c'est le mot de Nietzsche, de Goethe, seule l'action est réelle. C'est parce que, pourquoi seule l'action est-elle réelle? Parce que la vérité, on ne sait pas ce que c'est, que c'est au fond une combinaison intellectuelle des choses, et que le regard, mon Dieu, bon, nous allons voir tout à l'heure, on va essayer de prendre tout ça un par un pour voir ce que c'est que la réalité. Bon, prenons ces trois grands mythes, qui sont quand même les trois grandes directions, je crois, où nous sommes engagés. Soit la réalité, c'est la vérité, soit la réalité, c'est le reflet des choses qui expriment nos sens, soit la réalité, c'est l'action. C'est l'acte. Dès qu'il y a acte, il y a réalité. Examinons les trois points.